France Info.
Et l'info média, c'est donc avec Céline Bayle-Darcourt. Bonjour Céline.
Bonjour.
Et on commence donc avec ce mariage plutôt surprenant, Céline. Renault entre dans le monde de la presse. Le constructeur automobile devient actionnaire minoritaire du groupe Perdriel, propriétaire notamment du magazine Challenge. Que vient faire Céline Carlos Ghosn dans le milieu médiatique ?
Il veut être le premier à proposer des contenus éditoriaux adaptés aux utilisateurs de véhicules connectés ou autonomes, car toutes les voitures Renault-Nissan devraient l'être d'ici 2022. Les automobilistes se préoccuperont moins de la conduite, donc ils choisiront en fonction des services proposés. Carlos Ghosn souhaite créer du contenu à la demande, en fonction du profil du conducteur, sous la forme de textes ou d'émissions audio et vidéo. Ça rappelle la démarche de SFR, par exemple, qui a racheté des journaux et inclut dans ses forfaits l'accès à ses titres de presse en version numérique. Voilà pourquoi le PDG de Renault a contacté Claude Perdriel au mois de septembre. Claude Perdriel qui cherchait un partenaire depuis quelques temps. LVMH de Bernard Arnault était intéressé, mais déjà propriétaire des Échos. Avec Challenge, ça aurait fait trop de thématiques économiques. Le patron de presse voulait du coup un groupe vierge de tout actif dans ce secteur. Renault est arrivé au bon moment.
Et va investir 5 millions d'euros.
Ce qui permettra d'éponger les dettes du groupe. Renault devient actionnaire à hauteur de 40%. Claude Perdriel conserve 60%, reste président. Son plus gros titre, Challenge, est tiré d'affaires pour plusieurs années après de grosses difficultés financières. Il y a eu un plan d'économie, des départs de journalistes. Mais les ventes se sont redressées ces derniers mois. Plus 9% en 2017, 206 000 exemplaires vendus chaque semaine. Le groupe Perdriel, ce sont aussi des mensuels. Sciences et Vie, La Recherche, L'Histoire, Historia. Tous devraient profiter de l'entrée de Renault dans leur capitale. Des embauches sont d'ailleurs annoncées.
Et la question qui se pose maintenant, c'est évidemment celle de l'indépendance éditoriale du magazine Challenge.
Renault s'engage à la respecter, assure Claude Perdriel dans l'éditorial de l'hebdomadaire qui sort aujourd'hui. On attend de voir comment Challenge va continuer de traiter l'actualité de l'industrie automobile, qui est l'un de ses sujets favoris. Petit indice, savez-vous, Marie, ce qui fait la une du magazine cette semaine ?
Non.
Eh bien, une Renault.
Et il paraît que
c'est une coïncidence. Hein.
Allez, place à notre invité Céline, le réalisateur d'un documentaire sur Jacques Dutronc qu'on verra demain soir sur France 3.
Bonjour Frédéric Brunkel.
Bonjour Céline.
Jacques Dutronc, la vie malgré lui. Pourquoi ce titre ?
Ce titre parce que Jacques Dutronc, c'est, on a l'impression à regarder sa carrière, à le rencontrer, qu'il est devenu une vedette de la chanson, une vedette du cinéma un peu malgré lui.
Il voulait pas être chanteur ?
Il voulait être musicien, il a jamais rêvé d'être chanteur et le succès est arrivé dans un claquement de doigts parce qu'il correspondait parfaitement à son époque et que ça s'est fait tout seul malgré lui.
Il y a de grosses fêlures chez Jacques Dutronc.
Je pense que tous les artistes qui durent comme ça 50 ans sont des gens particuliers, donc forcément il y a des fêlures, forcément c'est des gens qui n'ont pas la stabilité de tout un chacun, et c'est sur ces fêlures aussi qu'ils construisent, qui fait leur talent et qui construisent toute leur carrière, donc oui, il y a des fêlures. Ouais.
C'est un homme timide, discret.
C'est un homme discret qui vit aujourd'hui en Corse, dans son petit village, sans sortir vraiment de sa maison. Et c'est un homme qui a été propulsé sur scène alors que lui rêvait plutôt d'être derrière et dans un studio d'enregistrement à jouer de la guitare et à créer pour les autres. Et donc oui, il a été propulsé vraiment malgré lui et ça l'a brûlé pendant toute sa vie, je pense.
Une semaine après le décès de Johnny Hallyday, qui était un grand ami hein, de Jacques Dutronc, on peut faire quand même des similitudes entre les deux chanteurs. Ils sont nés la même année, ils ont commencé au Golf Drouot, hein, ouais. Tous les deux. Ils n'ont pas été appréciés à ce moment-là par les plus âgés, hein, c'est les jeunes qui les ont aimés. Puis surtout, ils ont eu une vie d'excès. C'est un survivant, Jacques Dutronc.
C'est un homme qui a bien vécu. Il a une vie d'excès, oui, parce qu'il a pas mal abusé de l'alcool dans toute sa vie. Hein, c'est pas un secret. Tout le monde le sait et on le voit parce qu'il a toujours un verre à la main.
Mais et un cigare.
Ouais, c'est une vie. Je sais pas si c'est vrai. Enfin, c'est une vie à 100 à l'heure parfois. C'est une vie qui a été à 100 à l'heure jusqu'à la naissance de Thomas. En 1973. Après, c'est une vie avec le cinéma. Il a laissé la chanson et il s'est plutôt calmé. Il a travailler son personnage intérieur, où le cinéma est allé le chercher parce qu'il avait un personnage intérieur. Et ensuite, dans les années 80, il a voulu revenir à la chanson grâce à la rencontre avec Serge Gainsbourg. Il est revenu à la chanson. Ça s'est pas exactement passé comme il était parce que il était l'idole des années 60. On était dans les années 80. La jeunesse rêvait d'autre chose, mais il a quand même réussi à se connecter avec la jeunesse de l'époque et à vivre une autre aventure de chanteur. Mais c'est vrai que ces aventures de chanteur, ça a été toujours à 100 à l'heure et à fond la caisse, comme il le dit.
La rencontre de sa carrière, c'est avec l'écrivain Jacques Lanzmann, hein, qui n'avait jamais écrit de chansons et qui va signer les plus belles de Jacques Dutronc. Il y a dans votre film une image, une archive assez formidable. Les deux hommes sont en train de créer le petit jardin.
C'était un petit jardin. Voilà, mais tu mets joli. Oui. C'était un peu. C'était un joli peu. Non ?
Mais oui, ça va pas.
Non, moi je voyais ça comme ça. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin.
Tu veux pas répéter après qu'il sentait bon le métropolitain, tu veux pas répéter c'était un petit jardin. Le répéter encore une fois, non, parce que la chanson va être trop longue.
Parce que ça fait 1, 2, 3, 3 et 3, 3, 6, plus 1.
Oui, moi je la connais pas la musique, tu as trafiqué le texte.
J'ai pas trafiqué.
Comme d'habitude d'ailleurs.
Frédéric Winkel, c'est vraiment un couple mythique hein, de la musique.
Ouais, mais sur ce couple-là, ce couple-là a été formé par un troisième Jacques. Qui est Jacques Wolfson, qui était le producteur de Jacques Dutronc, qui était le producteur, c'était un producteur formidable à l'époque, il faisait toutes les vedettes des années 60. Et Jacques Wolfson voulait contrer un chanteur qui montait, qui était Antoine. Il voulait faire, lui fabriquer un chanteur qui aurait encore mieux correspondu à l'époque. Et donc il est allé chercher Jacques Lanzmann, qui était un journaliste, qui était directeur de la rédaction du journal Lui, et qui a écrit des textes qui ont été ensuite retravaillés par Jacques, mais qui ont correspondu complètement à la fois au personnage de Dutronc et à la fois à ce qu'attendait la jeunesse de l'époque.
Alors, on a vu Jacques Dutronc cet été en tournée avec Les Vieilles Canailles, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday. C'est fini, il montera plus sur scène ?
Je sais pas. Non, je pense que... Non, je sais aucune idée. Ils feront plus Les Vieilles Canailles, ça c'est certain, bien sûr. Mais on ne peut pas parler de l'avenir d'un artiste. Non, on peut pas savoir, je sais pas. Moi, j'espère qu'il montera sur scène.
Merci beaucoup, Frédéric Winkel.
Et votre film, Jacques Dutronc, La vie malgré lui, sera diffusé demain à 20h55 sur France 3. C'était l'Infomédia avec Céline Baïdarcourt.